Alors, si vous voulez tourner avec nous, on va aller dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, on va commencer par demander au Seigneur de nous conduire, de nous éclairer. Notre Dieu, nous venons à ta sainte présence, Seigneur, ce passage est d'une grande richesse. Et Seigneur, on te prie que ton esprit nous guide, nous élimine notre intelligence, nous ouvre le cœur à la réception, à la compréhension et surtout, Seigneur, à l'application des principes qu'on va apprendre aujourd'hui pour nous rapprocher de toi et connaître davantage la profondeur et la largeur de ton amour envers nous, Seigneur. Ce sont des choses qu'on a besoin de développer et il y a grande place à développement dans la vie de tous et de chacun. Alors, bénis-nous, Seigneur, sois avec nous ce matin et que notre compréhension augmente et aussi que nous mettions en pratique les choses que tu vas nous donner d'apprendre aujourd'hui. On te demande toutes ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, le titre du message, c'est « Connaître l'amour de Christ, une insondable bénédiction ». Alors, quand je vais vous raconter un petit peu l'histoire, pourquoi ce matin on en est à étudier ce passage-là, c'est que là, quelques semaines, on avait été à Saint-Jérôme et il y a un prédicateur qui était venu nous donner un sermon. C'était un mercredi soir et il nous avait parlé un petit peu de l'amour de Christ et ça m'avait profondément touché, vrai, très profondément. Alors je me suis dit, ce serait une bonne idée de reprendre le passage et de regarder ce que je suis capable de faire avec ça. Et j'ai sorti, bien entendu, des commentaires que j'ai à la maison sur Éphésiens. J'en ai plusieurs, mais j'en ai utilisé un en particulier, celui du grand prédicateur anglais, Martin Lloyd-Jones, qui a vécu de 1899, donc fin du 19e, et il a vécu jusqu'en 1981, donc c'est un contemporain. Et il a écrit un commentaire sur Éphésiens, 8 volumes d'à peu près 300 pages chacun. Ça vous donne ça une idée jusqu'à quel point le monsieur, et c'est un médecin. C'est un médecin qui a été converti. Et semble-t-il qu'il aurait été capable de devenir le médecin de la reine d'Angleterre. Ça vous donne ça une idée de la qualité du médecin. D'habitude, les reines d'Angleterre ne choisissent pas des deux de pique pour les soigner. Alors, c'était un homme avec une grande intelligence, beaucoup de culture, et qui a écrit, en particulier sur Éphésiens, il a écrit sur d'autres choses, très connu dans le monde entier, et il était le pasteur d'une église à Londres, et c'est un homme qui est connu dans tout l'univers chrétien, tous ceux qui ont déjà étudié un petit peu, connaissent Martin Lloyd-Jones, c'est un gars qui était... il avait une réputation internationale. C'était pas un pasteur ordinaire, là, mais c'était un pasteur extraordinaire. Alors, je me suis servi de son livre, et juste pour ce petit passage-là, 14 à 21, il y a 100 pages. Alors, je vais essayer de vous résumer ce que lui a dit sur ce passage-là en 100 pages. Moi, je vais vous le donner en une heure. Alors, si jamais il y en a d'entre vous qui lisent l'anglais, je vous recommande très fortement de lire ce qui est écrit sur ce passage-là, c'est carrément sublime. Alors, je vous le dis vraiment, là, c'est exceptionnel. Alors, je vais vous dire ce que lui a dit sur ce passage-là. Et après ça, ben là, moi, ça l'a eu pour effet de m'humilier. C'est une bonne chose. Et il dit, « Ce serait de la folie que de prétendre ou assumer que cette sublime prière est facile à comprendre ou facile à exposer au moyen de la prédication. » Fait que là, ça donne un grand coup. Tu dis, si lui, il trouve ça difficile. Après ça, il dit, « Je confesse humblement qu'à l'intérieur de mon ministère de prédication, je n'ai jamais été aussi conscient et jamais expérimenté davantage mon insuffisance et mon impuissance que devant ce passage particulier. » Wow! Quand tu lis ça, dans un homme de même, tu dis, il doit avoir du stock là-dedans, il doit avoir du jus que je n'ai pas nécessairement vu à la première lecture. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, Éphésiens, ça a toujours eu un effet assez particulier sur mon cœur. Les premières fois que je l'ai lu, ce passage-là en particulier, quand on parle de l'amour de Christ et qu'on dit que ça surpasse toute connaissance, ça vous donne-tu une idée jusqu'à quel point c'est profond? Ça veut dire que les hommes sur la terre, Martin Lloyd-Jones en particulier, il a étudié le passage de façon vraiment approfondie, mais il dit que l'amour de Christ, ça surpasse toute connaissance. Donc, mais les plus grands pasteurs, les plus grands expositeurs de la parole de Dieu, il dit lui-même que ça, là, c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien connaître de ce qu'il dit, mais ça veut dire qu'on ne peut pas jamais connaître exhaustivement tout le contenu de ce passage-là. Ça donne vraiment une idée de la richesse. Alors, quand tu lis ça au début, quand j'ai lu le commentaire et que j'ai lu ce qu'il a dit là, que ce serait de la folie de prétendre ou assumer que cette sublime prière, en passant, c'est une prière que Paul fait pour les saints d'Éphèse. Alors, ces versets sont si profonds que nous devons de nous arrêter, de les méditer et de leur consacrer beaucoup de temps et d'études. Et ceci dans un esprit de prière fervente et persévérante. Autrement dit, si vous prenez ce passage-là puis vous le lisez comme on lit un livre, un roman, c'est pas beaucoup de versets, là. Vous allez glisser sur la surface et vous ne comprendrez pas tout le jus, toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de ce verset-là et le sens aussi, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, une chose importante à considérer, c'est que l'apôtre Paul écrit cette épître-là au moment où il est en prison. Il écrit Éphésiens alors qu'il est en prison. Normalement, quelqu'un qui est en prison, il aurait écrit aux Éphésiens, puis il aurait dit, « Mes frères, voudriez-vous prier pour moi afin que je sorte de ce cachot? » Il ne mentionne même pas ça. Aucunement. Il ne parle pas de sa situation, il ne demande pas d'en être libéré. Il est en prison, il leur écrit une lettre, il fait une prière pour eux, à Dieu le Père, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, que l'œuvre qu'il demande que Dieu fasse dans leur cœur se fasse par le moyen du Saint-Esprit. Et ça concerne l'amour de Christ. Alors, Paul implore Dieu le Père de rendre par le Saint-Esprit les Éphésiens capable de comprendre et d'expérimenter. Parce qu'ici, dans ce passage-là, il y a deux choses. Comprendre une chose, on peut y arriver des fois. Mais expérimenter, c'est autre chose, on le sait. Je peux vous expliquer comment faire un site web ici devant vous ce matin, là. Puis je vais tout vous donner les conseils, puis les langages, puis tout ça. Mais si je vous dis, allez-vous-en chez vous, maintenant, puis faites-en un, vous allez dire, oh! J'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin de voir, j'ai besoin... Alors, ici, c'est exactement la même chose. En ce qui concerne tout le jus qu'il y a dans ce passage-là, on a besoin d'abord, ça passe par la tête. Tout commence par la tête. Peu importe ce qu'on étudie, ça passe par la tête, mais ensuite, ça descend dans l'expérience. Il prie Dieu le Père, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, mais par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit les rende capables de comprendre et d'expérimenter. Et là, je vais utiliser deux mots profonds. Insondable et ineffable. Pour ça, j'ai donné mon titre, Connaître l'amour de Christ, une insondable bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qu'on ne peut pas sonder? On l'a déjà souvent utilisé, l'image ici. Si je prends un fil, puis je mets un poids au bout, puis disons que c'est un puits, puis je descends le fil, je le laisse descendre. Puis à un moment donné, je vais atteindre la fond, ça va faire « pouc ». Ah! Peut-être qu'il y a 100 pieds, peut-être qu'il y a 200 pieds. Mais quelque chose d'insondable, ça veut dire que le fil, t'auras beau le laisser descendre, t'auras beau le laisser descendre, t'auras beau le laisser descendre, il n'y a pas de fond. L'amour insondable de Christ, ça veut dire qu'on peut en connaître quelque chose, mais on ne peut pas vraiment aller jusqu'au fond, parce que c'est un amour infini. Et par définition, quelque chose qui est infini, même quand on va arriver au ciel comme chrétien, on va découvrir les différents attributs de Dieu, les différentes facettes de sa personne, et on va les découvrir de façon permanente et infinie. C'est long, la terre de l'éternité, là. On se présente devant Dieu, et là, on va découvrir son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa sagesse, etc., tous les attributs. Et ça va nous prendre, l'éternité ne suffira pas, on atteindra, même si on reste là toute l'éternité, on n'épuisera jamais le fond de chacun de ses attributs parce que c'est trop profond, c'est infini. Alors ici, on parle de cet ordre de grandeur-là. Donc, on parle de deux adjectifs insondables, même si je le sonde toute ma vie, puis je suis le plus grand savant du monde, l'érudit biblique, le plus grand du monde, quand je sonde les choses de Christ, je comprends quand il dit, il n'a jamais été aussi conscient de son insuffisance et de son impuissance devant ce passage-là. Parce que tu sondes quelque chose qui est insondable. Comment tu essaieras d'y aller au fond, tu ne seras pas capable. Tu l'atteindras jamais. Et ineffable, le mot ineffable, c'est des fois, il y a un passage des Écritures qui dit « Gloire à Dieu pour son don ineffable ». Il parle de Christ, il parle de la personne de Jésus-Christ, et il dit « Gloire à Dieu pour le don que Dieu a fait aux hommes, et c'est Christ, et c'est ineffable ». Le mot ineffable, ça veut dire qu'on n'est pas capable de trouver des mots qui sont suffisamment riches et suffisamment intelligents pour être capable de décrire une chose. Une affaire ineffable, c'est que tu n'es pas capable de trouver des mots pour exprimer cela. Et c'est de ça qu'on parle ce matin, quelque chose d'insondable et quelque chose d'ineffable. Donc, l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a pour eux. Alors, on parle de l'Épître aux Éphésiens. Mais ici, Paul, il ne parlait pas juste aux Éphésiens de l'époque. Bien entendu, quand on lit le passage, il s'adressait à une communauté, à Éphèse. Mais en même temps, quand on va voir dans le texte, il s'adresse à tous les chrétiens de toutes les époques, de tous les temps. Donc, il parle de nous. Il est en train de dire, « Je prie pour que Dieu le Père, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vous ouvre l'intelligence à la compréhension la plus haute possible que vous soyez capable d'atteindre, parce que tu n'atteindras jamais le fond. Mais on peut monter, par exemple. Là, on a une certaine compréhension de l'amour de Christ, mais il est en train de dire, vous pouvez l'augmenter, mais pas à peu près, parce que ça n'a pas de limite. » Alors, cette connaissance-là de l'amour de Christ va transformer radicalement toute notre marche chrétienne. C'est beaucoup, là, quand on parle de toute la marche chrétienne, de notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir et tout. Et ça a un côté éminemment pratique, même si, à la première vue, on regarde ça, ça a l'air des mots, on ne comprend pas nécessairement tout de suite l'aspect pratique de tout cela. Alors, quand on regarde, il dit que c'est une prière. Et le premier verset, verset 14, alors on parle d'une bénédiction qu'il veut préparer l'esprit des gens qui vont recevoir la lettre, qui vont la lire, qui vont essayer de la comprendre. Il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Quand il dit « À cause de cela », à quoi il fait référence? Il fait référence à ce qu'il a dit avant, dans le début du chapitre 3, dans le chapitre 2, dans le chapitre 1. Si on veut comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, il dit « À cause de cela, de ce qui s'est passé, de ce qu'il a dit dans le chapitre 1, chapitre 2 et le chapitre 3 », Là, il dit, à cause de tous ces événements-là, de toutes ces choses-là que je vous mentionne, je fléchis les genoux. Donc, il prie devant Dieu le Père. Alors, il fait référence au fait que les personnes à qui il s'adresse, ce sont des personnes qui ont reçu la grâce de Dieu. Alors, Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, c'est des versets qu'on connaît presque tous par cœur, on les a entendus des centaines de fois, qui dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, il est en train de nous dire quelque chose. À cause de cela, il est en train de faire référence qu'on a été sauvés par la foi. Ce n'est pas notre œuvre, c'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Et il dit, il veut que les gens, les Éphésiens, comprennent qu'on ne se réconcilie pas avec Dieu par les œuvres. Autrement dit, l'ensemble de nos bonnes actions qu'on fait dans la vie. C'est pas que Dieu va se présenter devant lui, il va avoir une grosse balance. Et là, il va tout prendre tes bonnes actions, il va les mettre sur un côté. Il va tout prendre tes mauvaises, il va les mettre sur l'autre. Et là, il va dire, « Ah, ça penche plus du bord des bons, donc on va le laisser rentrer. » C'est pas ça du tout. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Autrement dit, c'est pas à cause des bonnes actions qu'on va avoir faites dans notre vie, peu importe les bonnes actions, soigner les malades, quoi que ce soit. Il dit, tu rentreras pas au ciel à cause de ça. Il met l'accent sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. On va revenir là-dessus tantôt. Donc, quand il dit, à cause de cela, il parle de la réception de la grâce divine. Et il veut leur rappeler autre chose qui a été dit dans Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 22. Il veut leur dire qu'avant, il ne faut pas oublier qu'à l'époque là, des Éphésiens, il y avait les Juifs qui, eux, croyaient que la grâce et le fait qu'ils iraient vivre dans le ciel un jour étaient strictement réservés aux Juifs. Ils faisaient erreur parce que les Écritures ne disaient pas ça, mais eux, ils croyaient ça. Alors, il est en train de vouloir rappeler qu'il y avait deux groupes avant. Il y avait les Juifs et il y avait les païens. Et il y avait un mur qui séparait les deux. Tu ne pouvais pas rentrer dans un groupe comme dans l'autre. Et ici, il veut que, à cause de cela, il veut faire référence au fait que, avant, les Éphésiens étaient sans Christ, des païens. Quand tu es sans Christ, tu es païen. Alors, ça dit, dans le verset 11, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous, et là le verset 12, il dit, « que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. » Et quelle était la promesse? Les alliances, l'alliance de la promesse, c'est quand Dieu a promis à Abraham que c'est dans sa descendance que va venir le salut. Et dans Galates, on mentionne le nom de sa descendance. On est porté à penser sa descendance, c'est ses enfants, c'est la génération, tous les enfants qui vont suivre Abraham. Non, il dit, et à sa descendance, et dans Galates, on précise c'est qui sa descendance, c'est Christ. La promesse de Dieu de sauver les hommes va se réaliser à travers la personne de Jésus-Christ qui va venir éventuellement. Alors, il dit, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. Donc, entre les Juifs et les païens, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui a brisé le mur qui séparait les deux. Il dit, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps. Voyez-vous, maintenant, les Juifs et les païens qui sont régénérés, qui appartiennent au Seigneur, il n'y a plus de mur de séparation comme avant. Il dit que l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il est en train de dire que autant les gens régénérés qui appartenaient à Israël, autant les gens régénérés qui appartiennent à l'Église, il dit maintenant on a accès auprès du Père. Verset 19, il dit ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. T'es en plein de leur rappeler que Dieu a fait grâce, pas uniquement aux Juifs, mais qu'il a étendu sa grâce sur les païens. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Donc, il est en train de dire que quand on est régénéré par le Seigneur, on devient une habitation de Dieu en esprit ou par l'esprit à cause du fait qu'on est régénéré par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut les conscientiser d'abord de ces événements-là, la réception de la grâce et qu'ils étaient autrefois sans Christ comme païens. Maintenant, dans la deuxième partie du verset 14, il dit « Je fléchis les genoux devant le Père. » Si Dieu nous accordait seulement de prendre une conscience plus aiguë de sa grandeur infinie, nous tremblerions littéralement de se trouver face à face avec lui. Quand on regarde les passages des Écritures où des personnes ont eu une certaine vision de Dieu, ça fait, l'effet que ça fait, c'est qu'ils tombent sur leur face. Dieu est tellement grand et tellement impressionnant, sa majesté est tellement grande, que quand un être humain pécheur est placé devant lui, il tremble littéralement, parce qu'on se trouve devant une personne où on... Et pour se rappeler cela, le fameux passage d'Ésaïe 6, versets 1 à 7. Vous vous souvenez qu'Ésaïe était un prophète, un grand prophète, était une personne qui vivait proche de Dieu, qui avait une crainte de Dieu, qui obéissait au Seigneur, dont les Écritures étaient la règle de sa vie. Et dans ce passage-là, on nous raconte qu'il y a eu une certaine vision du Seigneur. Alors ici, on prend un personnage, un être humain régénéré, né de nouveau, qui aime le Seigneur, qui marche dans ses voies, mais que Dieu lui accorde de le voir jusqu'à un certain point. Parce que personne ne peut voir littéralement Dieu et ne pas mourir. Mais il accorde une certaine vision. On va lire le passage, c'est impressionnant. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, en passant les séraphins, c'est des anges les plus saints, les plus proches de Dieu, ceux qui marchent devant lui. » Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Et regardez bien le verset 3, ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'ils se disaient l'un à l'autre. Ils criaient. Si je crierais vraiment, matin, vous verriez que le micro, peut-être que je crie trop fort. Ils criaient littéralement l'un à l'autre et disaient... « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Regardez, verset 4, « Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » Et regardez bien ce qu'un homme de Dieu dit quand il a une vision de l'Éternel. « Alors je dis, » ici c'est Isaïe qui parle, « Alors je dis, » « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alors, on ne rentrera pas dans toute l'explication de ce passage-là, mais dans le fond, l'idée, c'est que quand on se présente devant Dieu, on voit sa grandeur infinie, sa majesté, et on voit aussi, même si on est sauvé, on voit l'étendue et la gravité de nos péchés. C'est pas pour rien qu'il dit « Malheur à moi, car je suis perdu, mes lèvres sont impures. » Quand la lumière, l'intensité de la sainteté de Dieu est tellement grande qu'elle nous submerge, qu'elle nous écrase littéralement. Alors on a besoin, pas pour rien que Dieu a permis qu'un ange prenne une pierre ardente qui était sur l'autel. Alors ça représente le sacrifice de Christ, ça représente le fait que Jésus-Christ, sur la croix, a subi le châtiment qui aurait dû être le nôtre, il fait toucher les lèvres avec ça, et il lui dit, il en toucha ma bouche, il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Son péché est expié parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a expié à sa place, et c'est la personne de Jésus-Christ. Apocalypse 1, versets 12 à 18. « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, on parle de l'apôtre Jean ici, celui qui écrit l'Évangile de Jean. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Ça saisit-tu assez, cette image-là? Comme mort, il posa sa main droite sur moi, sa main droite, en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Qu'est-ce que c'est en train de nous apprendre, ces deux passages-là? Et on aurait pu en prendre d'autres. Ça nous montre que quand on a une certaine vision de Dieu, on voit notre indignité, on voit notre impuissance, on voit notre misère, et on est porté à se jeter la face contre terre. Alors, Paul était profondément conscient que la nature de son intercession était d'une grande profondeur. Sa prière comportait plusieurs caractéristiques. Elle était d'abord absolument essentielle. Deuxièmement, elle était d'une très grande qualité. Pourquoi une très grande qualité? Parce qu'elle était délibérée. Parce que on sait, les Écritures nous disent que chaque mot de chaque verset, de chaque livre de la Bible est littéralement soufflé de Dieu ou inspiré de Dieu. Alors les mots ici, hein, quand on dit, c'est l'Esprit Saint qui mettait dans son esprit la capacité d'exprimer des choses. Alors c'était vraiment délibéré, il le faisait en sachant ce qu'il demandait, en comprenant la largeur et la profondeur de ce qu'il demandait. Et bien entendu, c'était révérencieux, parce que quand tu ploies le genou devant quelqu'un, c'est parce que tu te rends compte que la personne devant qui tu ploies le genou est beaucoup plus est grande. Alors, la troisième chose, dans le verset 15, il dit « Duquel tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. » Il est en train de parler de Dieu le Père, puis il dit « Tout qu'est-ce qu'il y a sur la terre, toute famille dans les cieux, sur la terre. » Alors, dans les cieux, il y a quelle sorte de famille qu'il y a là? Il y a les saints qui sont déjà partis. Il y a les anges. Alors, il dit que le Père, tout ce qu'il y a sur la terre comme famille, que ce soit céleste ou que ce soit terrestre, on tire notre nom de lui. On est des créatures de Dieu. Il y a une différence entre être une créature de Dieu puis être un enfant de Dieu. On va en venir plus tard à ça. Alors, Paul intercède auprès du Père. Il considère ici le Seigneur comme étant le Père de toutes choses. Le Père est le Créateur des nations, de toutes les créatures terrestres et célestes. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler sa paternité créationnelle. Et le Père aussi, des élus en particulier, ça c'est la paternité spirituelle. Parce que les Écritures nous apprennent que avant de connaître Jésus, avant d'avoir reçu sa grâce, tous les hommes sont littéralement perdus. S'ils décèdent dans l'état qu'ils sont, sans être réconciliés avec Dieu, ils s'en vont directement en enfer pour toute l'éternité. Et tous les hommes, en naissant, sont dans cet état-là. Recevoir la grâce, c'est d'abord d'avoir entendu l'Évangile qui nous dit que Dieu le Père, de toute éternité, a choisi un nombre défini d'hommes et de femmes à travers l'espace et le temps pour les mettre en Jésus-Christ, pour que quand Jésus-Christ viendrait sur la terre, il ferait deux choses pour eux. D'abord, il mènerait une vie de parfaite justice. Quand on regarde les 10 commandements, les commandements nous commandent un paquet de choses. On ne rentrera pas dans les détails de ça ce matin, mais elles nous commandent un paquet de choses. Et avoir manqué une seule fois au plus petit des commandements nous mérite d'être jeté vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Alors, Dieu demandait pour qu'on puisse vivre en sa présence une parfaite obéissance à la loi, aux 10 commandements. Qui d'entre nous a fait ça? Aucun. Alors, l'affaire est que si c'est pas nous qui l'a accompli, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait accompli. Et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand on croit en sa personne et en son œuvre, il était le Fils de Dieu, il est venu sur la terre, s'est incarné, il a vécu une vie de parfaite justice, donc il n'a jamais manqué une seule fois à chacun des commandements. Et la parole nous dit que si on croit que Jésus-Christ a fait ça à notre place, il va mettre la vie de parfaite justice de Christ sur notre compte. Il va considérer que c'est nous qui l'a fait, mais on sait que c'est pas nous, mais c'est quelqu'un d'autre par la foi. Et autre chose, que si on avait manqué, disons, vous avez commis, je sais pas, mais on va être généreux, on va dire 1000 péchés. Mais c'est fort probablement plus que 1000. Mais on va dire 1000. 1000 péchés, vous alliez en enfer pour l'éternité, et plus on en a commis, plus la punition est sévère. Alors, Dieu a dit qu'il ne laissera pas le péché impuni. Puis, la manière de Dieu de punir le péché, c'est de le condamner à l'enfer pour l'éternité, dans le lac de feu. Alors, là encore, la même chose que tantôt. Si c'est pas moi qui le subis, ce châtiment-là, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le subit, parce que Christ, le Père, a dit que tous les péchés seront punis. Sans exception. Alors, il faut croire, et l'œuvre de Christ comprend les deux aspects. Il a accompli à notre place les exigences que Dieu avait pour chacun d'entre nous en accomplissant la loi, les 10 commandements, à notre place. Et aussi, on croit que Jésus-Christ, sur la croix, le Père a déversé sur lui sa colère, donc l'équivalent de ce que nous aurions dû subir en enfer, il l'a pris à notre place. Et la foi, là, c'est aussi simple que ça. Si ça, c'est simple à votre goût. C'est simple. Mais c'est à la fois simple et à la fois, on croit que Dieu fait ça à notre place, que Jésus a fait ça à notre place. Donc, il a accompli la loi, la perfection à ma place. Et il a aussi subi le châtiment que j'aurais dû subir à ma place. La foi, c'est de croire ça. Et la Bible nous dit que c'est le don de Dieu. La Bible nous dit aussi que quand on est un véritable croyant, on devient un enfant de Dieu. Quand je crois à l'œuvre et à la personne de Jésus-Christ, qu'il était Dieu, qu'il est venu sur cette terre et qu'il a accompli tout ça, si je crois à ça, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais la croyance, c'est pas uniquement une affaire intellectuelle, parce que tu peux très bien comprendre ça avec ton esprit, mais si tu n'obéis pas. Parce que la preuve qu'on est régénéré et qu'on appartient à Dieu, c'est quand on obéit à la parole, à toute sa Bible, tout ce qu'il nous commande de faire. Ça, c'est la preuve que maintenant, on veut que notre vie soit dirigée par Dieu. Alors, il y a de l'obéissance. Alors, Dieu nous donne ce qu'il faut, le Saint-Esprit, pour nous libérer de Satan, du péché et de la loi dans le sens que maintenant, je n'ai plus à essayer de gagner mon ciel en obéissant parfaitement à la loi. J'y arriverai jamais et aucun homme n'y est jamais arrivé non plus. Alors, quand on croit à toutes ces choses-là que je viens de vous dire, on fait partie de la famille de Dieu et maintenant, on porte son nom. Alors, dans Hébreux 12, versets 22 à 23, ça dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » Donc, on a commencé, il a voulu que la première chose qu'il fasse, qu'il a voulu préparer leur esprit à la réception et à la compréhension de la prière qu'il est en train de faire pour eux. Dans les versets 16 à 19, il va présenter le contenu de sa prière. Alors, Lloyd-Jones fait encore la remarque suivante pour nous donner une idée de la qualité et aussi de la richesse de la prière de Paul. Alors, il dit, « Ultimement, il n'y a pas de meilleure mesure de la condition et de l'état d'âme d'un chrétien que la nature de ses prières. » Autrement dit, tu écoutes quelqu'un prier, puis tu as une idée de où ce qui est rendu dans la vie chrétienne. C'est ça que ça dit. Après ça, nous verrons que la prière de Paul est d'une élévation et d'une profondeur qui révèle que Paul avait connu cette bénédiction-là dont il parle. Autrement dit, j'ai expérimenté ça et j'aimerais beaucoup que vous aussi, vous l'expérimentiez. Ça, c'est ça qu'il est en train de dire. Il désire que ses frères et sœurs en Christ la partagent. Lloyd-Jones affirme avec assurance concernant cette bénédiction qu'il demande à Dieu pour les Éphésiens. Et ça, c'est une phrase qui m'avait tellement frappé quand je l'ai lue. Autant le chrétien est au-dessus des païens. Ici, on est en train de faire un rapport. On est en train de comparer les choses. Autant le chrétien est au-dessus des païens, autant il y a un point où le chrétien peut et doit s'élever au-dessus de la médiocrité. Saisissez-vous ce que je suis en train de dire. Il dit, autant il y a de différence entre un chrétien et un païen, puis si on en ferait la liste ce matin, vous verriez qu'elle est très longue. Il dit, autant il arrive un point dans la vie du chrétien où on peut et on doit s'élever au-dessus de la médiocrité. La bénédiction qu'il demande est non seulement une possibilité, mais aussi un devoir pour chacun de chercher à atteindre cela. Il y a des moyens. La bénédiction qu'il veut leur faire partager est si puissante et si forte que les chrétiens ont besoin d'être préparés, d'être fortifiés pour la recevoir et pour l'expérimenter. Alors, on va nommer certains grands chrétiens du passé qui l'ont reçu, cette expérience-là. D.L. Moody, Jonathan Edwards, pas des deux de pique, là, David Brainerd, Charles Spurgeon, George Miller, Sarah Cook, Amy Carmichael et beaucoup d'autres. On ne peut pas toutes les nommer, il y en a beaucoup trop. Et s'accorde pour dire que la nature de cette bénédiction-là, de connaître Christ de façon subjective. Alors, on va faire la part des choses entre une connaissance de Christ objective et une connaissance de Christ subjective. On va revenir. Alors, il dit que la bénédiction est de nature submergente. Qu'est-ce que ça veut dire être submergé? Ça veut dire que quand Dieu t'accorde de connaître l'amour de Christ, ne serait-ce qu'il t'élève un petit peu plus, il dit, dans le fond, ce qu'il est en train de dire dans sa prière, c'est qu'on a besoin d'être préparé pour ça. Parce que quelque chose de submergent, quand on dit qu'on est submergé par le chagrin, hein, c'est quelque chose qui nous enveloppe, qui nous écrase littéralement, et d'une grande intensité. Et alors, on va voir certaines déclarations de personnes qui ont connu ces choses-là, et les mots qu'ils décrivent, c'est tellement intense que les gens disent que quand Dieu leur accorde, ils demandent à Dieu, « Sachez, je suis plus capable d'en prendre. » Ils te font entrer dans une expérience, vraiment. Alors, notre besoin d'être fortifié se manifeste de différentes façons. Pourquoi on a besoin d'être fortifié pour connaître cette expérience-là? Parce qu'on est plein de doutes, on est plein de découragement. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les découragements, là. Et moi, je connais ça. Vous autres aussi, je suis pas mal certain. Après ça, on a des dépressions, on a des mauvaises pensées, on a de la mondanité dans nos vies, on a de la léthargie intellectuelle et spirituelle. La léthargie, ça veut dire qu'on est paralysé dans notre paresse et dans notre... Pourquoi? Et ça, ça nous affaiblit. Mais pour connaître cette expérience-là de façon intense, il faut que Dieu nous prépare à la recevoir. Il faut la vouloir, premièrement, et ensuite, il faut qu'il prépare notre cœur, parce que sans ça, on ne sera pas capable de la supporter. Martin Lloyd-Jones dit encore, « La grande cause de notre présente condition dans l'Église est que nous ne connaissons pas l'amour de Christ à notre égard. » C'est une grande phrase qu'il dit là. « Cette connaissance a un puissant effet transformateur dans toutes les facettes de notre vie spirituelle. Plus on va connaître de façon subjective l'amour de Christ envers nous, plus on va porter du fruit dans le développement de notre vie de piété, de notre vie de sanctification, de notre vie de proximité avec Dieu. » Donc, verset 16 nous rappelle, Paul est en train de leur dire que cette expérience-là, c'est un don divin. Puis ce qu'il dit, « Afin qu'il vous donne, qui il, Dieu le Père, vous donne à vous, selon la richesse de sa gloire. » Il sait, et ici, il faudrait passer des heures à expliquer. Il veut que Dieu le Père nous donne selon la richesse de la gloire de Dieu. Souvent, on se pose la question, c'est quoi ça, la gloire de Dieu? La richesse, là, il parle de deux mots, la richesse puis de la gloire. La gloire, c'est la manifestation simultanée de l'ensemble de chacun de ses attributs. Simultanée, là. S'il vous donnait juste de comprendre son amour, vous en auriez... Mais si là, ici, vous les mettez toute la gang ensemble, on n'est pas capable de supporter ça. On n'est pas capable de supporter ça. C'est trop... Et il demande que ce don-là nous soit donné en proportion avec la richesse de la gloire de Dieu. Et on a vu tantôt que tous les attributs de Dieu sont infinis. Imaginez-vous la puissance et la profondeur de ce qu'il est en train de demander. Selon la richesse de sa gloire. Et là, il demande quelque chose, on a dit tantôt que pour connaître cette expérience-là, on a besoin d'être fortifié, parce que s'il nous la donnait sans préparation, on ne sera pas capable d'apporter. D'être puissamment fortifié, d'être rendu fort par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, c'est une expérience qui se vit à l'intérieur de notre personne. Donc, c'est un don trinitaire, parce qu'il parle du Père, il parle du Fils et il parle du Saint-Esprit. C'est un don de nature spirituelle, parce que ça se vit dans l'homme intérieur. Et c'est un don prodigieux dans le sens que, selon la richesse de la gloire divine, aucun d'entre nous n'a la moindre idée de ce que ça veut dire dans sa profondeur. Prenez chacun des attributs que Dieu voudrait vous les montrer toutes simultanément. Là. C'est tellement riche. Et il demande que ce soit en proportion, que ce don-là soit donné en proportion de ce que Dieu est. C'est puissant. Et c'est un don aussi spécifique qui demande quelque chose. Il demande que les gens soient puissamment fortifiés. Donc, on a besoin. Il sentait que les Éphésiens, pour connaître cette expérience-là, avaient besoin d'être puissamment fortifiés. Versets 17 et 18, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Voyez-vous, ce que je trouve beau dans ce passage-là, c'est que l'expérience qu'il demande pour les Éphésiens, il n'est pas en train de dire « Oh, ben ça, c'est juste pour une élite. C'est juste pour ceux-là comme Jonathan Edwards. » Regardez ce qu'il dit. Il faut s'arrêter des fois aux mots quand on lit un verset. « Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. » Ça veut dire que si on est un enfant de Dieu, n'importe qui est assis dans la salle ici ce matin peut augmenter sa connaissance de l'amour de Christ et puissamment aussi. Alors la demande, c'est que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Est-ce que Christ habite déjà dans vos cœurs par la foi? Quand on est régénéré, qu'on est des croyants en Jésus-Christ, la parole nous dit qu'on est déjà, à quelque part, Christ habite dans nos cœurs. Alors cependant, il est possible qu'un chrétien vive sa vie chrétienne sans une appréciation joyeuse et pleinement consciente d'une intimité et d'une communion avec Christ. Alors, il n'est pas en train de dire qu'ils demandent la régénération. Ils sont déjà régénérés. Mais il dit que c'est possible que vous n'avez pas atteint un certain niveau d'intimité et de communion avec Christ. Comme quand Paul disait, « Ce n'est plus moi qui vis. » Il ne disait pas une phrase en l'air qui voulait rien dire. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » La nature de cette expérience-là est tellement profonde que c'est Christ qui conduit vos pensées, conduit vos paroles, conduit vos actions et conduit toute votre vie. Est-ce qu'on est rendu à ce point-là? À chacun de répondre. Pour atteindre ce niveau, le chrétien devra chercher la face du Seigneur avec beaucoup plus de prière et d'intensité. Devra cesser d'attrister le Saint-Esprit et devra exercer une réelle mortification du péché et une réelle repentance. Voyez-vous, il y a plusieurs choses. Chercher la face du Seigneur, on l'a chanté tantôt. Avoir prié plus fervemment et plus intensément. Cesser d'attrister l'Esprit de Dieu. Comment on attriste l'Esprit de Dieu? Par le péché, par la désobéissance. Alors, il faut, de toute notre être, chercher à éliminer ces choses-là de nos vies pour connaître et faire croître cette expérience-là dans nos cœurs. Quand on parle d'enraciner et fonder, on parle de deux mots, les racines. Les racines d'un arbre, apparemment que les racines d'un arbre, si vous regardez un arbre, la forme de l'arbre extérieurement, dans le sol, elle est à peu près la même. Alors, qu'est-ce qui permet qu'un arbre tienne debout? Quand il y a une tempête de vent épouvantable. C'est les racines qui sont prises dans la terre. Alors, il parle ici d'enracinement, afin que vous soyez enracinés et fondés. Donc, il parle d'enracinement, il parle de fondation. La fondation, on le sait, si on essaie de construire une maison sur du sable et qu'il arrive quelque chose, de la pluie, des vents, ça va tomber. Mais si on a creusé et si on a fait un solage solide, on peut construire n'importe quoi là-dessus, ça va tenir. Alors, c'est ça qu'il demande, qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour. Et j'aime tellement l'idée de tous les chrétiens. Parce que des fois, on est porté à lire des biographies et à avoir des admirations pour « Ah, ce missionnaire-là, il était tellement généreux. Ah, ce pasteur-là, il était ci, il était ça. Ou tel chrétien était un homme de prière. C'était une princesse de prière. C'était un prince de prière. » Et on est tous portés à dire « Ben là, ça, c'est pour l'élite. » Dieu accorde à l'élite des choses qui ne sont pas accessibles à tous. C'est pour ça que le texte dit du tout. Il dit que c'est accessible à tous les chrétiens. Alors, il dit qu'il veut qu'on connaisse l'amour de Christ envers nous. Et là, il parle de mesurer l'immesurable. Je ne sais pas si j'avais déjà essayé de mesurer quelque chose qui n'est pas mesurable. Alors, il parle de quatre choses. Largeur, longueur, profondeur et hauteur. Selon vous, y a-t-il une dimension de trop? Ensuite, quand je mesure quelque chose, c'est long, c'est haut, c'est large. Lui, il en mentionne quatre. Ça nous fait sûr. Souvent, pourquoi je dis qu'on lit des passages, on ne réfléchit pas? On ne réfléchit pas au sens. Pourquoi il met quatre? Pourquoi? Alors, sa largeur. Alors, pour nous montrer la largeur de l'amour de Christ, Apocalypse 5, versets 9 et 11, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Verset 11, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades. » Mille de mille, c'est millions. Alors, il est en train de dire que devant Jésus-Christ, il y a des millions, devant Dieu, il y a des millions de personnes et des milliers de milliers. La largeur. Christ a aimé toutes les nations. Il va y avoir des gens de toute langue, de toute race. Alors, on parle de largeur. On parle de longueur maintenant. Jérémie 31, verset 3 et Apocalypse 13, verset 8. « De loin, l'Éternel se montre à moi. » Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté et aussi Apocalypse 13, 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » On parlait tantôt, quand on parlait de l'Évangile, que Dieu, avant même qu'on existe physiquement, nous a choisis dans l'éternité. C'est dur à comprendre, hein? On n'est pas vivant encore, mais pour lui, tout ce qui est pour être créé dans le temps, dans l'espace, pour lui, ils sont tous présents. Et à travers toute cette masse-là, il a décidé d'accorder sa grâce à un nombre défini de personnes, d'hommes et de femmes, et de les placer en Jésus-Christ, qui, éventuellement, quand Christ viendrait, recevrait les bénéfices de sa mort et de sa vie parfaite d'obéissance sur la terre. Alors, on parle de longueur. Ça fait longtemps, c'est long. Depuis l'éternité, ça a commencé son amour pour nous. Après ça, sa profondeur, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. » Quand on parle de profondeur, Christ était Dieu. Il s'est humilié en venant sur cette terre, en étant aux yeux des hommes comme un homme comme tout le monde. C'était profond, l'amour qu'il avait pour nous autres. Et maintenant, sa hauteur, Jean 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et dans le verset 17 de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » N'est-ce pas qu'un amoureux désire toujours que ceux qui l'aiment partagent ses privilèges, ses bénédictions et ses plaisirs? Quand on aime quelqu'un, gagne un voyage pour deux personnes, qui vous pensez m'emmener? Ma femme. Je veux faire partager les personnes que j'aime, et on est tous comme ça. Mais si jamais il nous est arrivé de considérer l'adoration, l'assistance au culte et la prière comme des tâches pénibles, le seul antidote pour nous guérir de tout ça, c'est de contempler l'amour de Christ envers nous. Christ nous a tellement aimés que tous les cultes, on devrait être là pour lui exprimer notre joie, notre reconnaissance de ce qu'il nous a donné. Et c'est d'une telle richesse et d'une telle profondeur qu'on n'a pas vraiment... Et dans le verset 19, il dit, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Alors, la connaissance de l'amour de Christ, nous devons faire une attention particulière à l'ordre des verbes dans le verset. Comprendre et connaître. Alors, la compréhension précède la connaissance. Comprendre l'amour de Christ, c'est de le regarder extérieurement, avec objectivité, avec un sens d'admiration et d'émerveillement. Voyez-vous, tout à l'heure, on parlait d'objectivité et de subjectivité. Quand je regarde Christ, que je vois une croix, j'imagine une personne dessus, je connais sa vie, je sais ce qu'il a fait pour les hommes, donc je le regarde extérieurement. Mais là, on parle de ça, mais c'est sûr que ça prend celle-là avant l'autre. L'autre, connaître l'amour de Christ, c'est de le regarder intérieurement. Là, c'est une expérience qu'on vit de l'intérieur. Donc, ce qu'on pourrait appeler une connaissance subjective. Donc, c'est plus une connaissance expérimentale et personnelle. C'est une prise de conscience croissante que l'amour de Christ envers moi personnellement est insondable, ineffable et inépuisable. Moi, des fois, quand je me regarde vivre, là, puis toutes mes chutes, puis mes manquements, puis mes misères, je me dis, comment il fait pour m'aimer? Comment il fait pour m'aimer? Pourtant, c'est la plus grande consolation de nos vies que malgré toutes nos chutes, nos misères, nos difficultés, lui, il nous aime d'un amour tellement profond que c'est là-dedans qu'il faut aller se ressourcer, sinon on se décourage bien raide, comme on dit en québécois. Alors, il veut que cette affaire-là monte tellement haut, la plénitude, dans la deuxième partie, et connaître jusqu'à la plénitude de Dieu. Alors, l'amour de Christ et l'amour de Dieu pour nous est toujours plus grand que nous pouvons le concevoir. Moi, pourquoi ça m'avait fait du bien quand on est allé à Saint-Jérôme? Parce que des fois, tu traverses des moments dans ta vie, ça va plus ou moins bien sur différentes affaires. Puis là, quand tu entends parler que Dieu t'aime d'un amour infini, malgré toutes tes niaiseries, malgré tout, il t'aime pareil. Nous, sur la terre, quand quelqu'un nous aime, on est content. Mais l'amour humain est toujours imparfait, est toujours incomplet, puis jamais éternel. Mais là, on peut aller se ressourcer et se souvenir de cette affaire-là que Dieu nous aime. Verset Jean 14, versets 20 et 21. Version David Martin. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Alors, il dit que si on l'obéit, puis si on le suit, il va se manifester à nous, mais il va se manifester à nous non seulement par la connaissance de Christ objective extérieure, mais il va se manifester à nous par une expérience intérieure que quand on va la connaître, on l'oubliera pas tantôt. Alors, je vais vous parler de Daniel Steele. Je pense que je vais le couper parce qu'il m'en reste pas mal long. Je vais finir le deuxième point, puis on finira une autre fois parce que je veux pas le couper les coins ronds. Alors, je voudrais ici illustrer en citant le chrétien qui s'appelait Daniel Steele, qui était un homme qui était spécifiquement porté vers l'incrédulité et le scepticisme. On peut s'identifier des fois des bonhommes de même. Et qui a connu la bénédiction et l'expérience de l'amour de Christ de façon subjective dans sa vie. Là, je vous cite ce qu'il dit. Presque chaque semaine, et parfois tous les jours, la pression de son grand amour s'exerce sur mon cœur dans une telle mesure de palpitation que tout mon être, corps et âme, gémit sous cette tension presque insupportable de joie. Parles-tu des expériences qu'on a beaucoup connues, nous? Pourtant, c'est accessible. C'est ça qui est le merveille du passage. Il dit, malgré cette plénitude, il demeure toujours une fin pour connaître encore plus profondément cet amour consumant. Mes lèvres ne cessent de répéter, et je trouve sa prière tellement belle, il va terminer par sa prière, il dit, « Brûle, brûle, ô amour de Christ, dans mon cœur, brûle avec intensité jusqu'à ce que les scories de mes amours terrestres soient consumées, entièrement brûlées. » Et on va continuer une autre fois, parce que je n'ai pas eu le temps de passer à travers. On est déjà rendu à une heure. Alors, on va terminer là-dessus.